Francis Jauregui Berry, bonsoir. Vous êtes sociologue, professeur à l'Université de Pau, directeur du laboratoire 7 du CNRS. Vous avez écrit, entre autres, Un goût d'ubiquité, l'Internet, nouvel espace citoyen, les branchés du portable, usage et enjeux des technologies de la communication. Ce sont quelques ouvrages parmi d'autres. Alors, ma première question va être celle-ci. Ces 30 dernières années, notre environnement social et technologique a profondément évolué, que ce soit dans le domaine privé, public, professionnel, et vous expliquez que nous vivons notamment un temps accéléré et auquel les nouvelles technologies participent. Alors, la première question est celle-ci. D'où vient cette accélération du temps? Où est-ce que vous situez cette hypermobilité de notre époque et l'accélération de nos sociétés, du rythme de nos sociétés?
Bon, alors, c'est pas un phénomène nouveau, hein. Disons que depuis la modernité, les sociétés industrielles, c'est quelque chose qui existe. On sait que la rationalisation du travail, la densification du travail, le taylorisme était une façon de faire plus de choses dans moins de temps pour faire plus de bénéfices. Ensuite, au niveau des circuits de distribution, on a essayé de rendre les plus fluides possibles et la vitesse de parcours des marchandises était aussi synonyme d'économie. Et puis, disons, depuis... dans l'après-guerre, le trinôme de conception, distribution et puis vente se sont traduits aussi par des flux tendus, hein, par des zéro stock, des coordinations, des pôles de production, de vente de par la planète. Donc tout ceci existait déjà et est un corollaire de notre modèle même économique. Alors ce qui, dans les années 80 et surtout 90, s'est énormément développé, c'est l'extension de l'informatique et des outils de télécommunication appliqués à cette économie-là et qui toutes ont été dans la même direction, raccourcissement des délais, agilité télécommunicationnelle, disons que pour aller vite, toute chose étant égale par ailleurs, dans la chrono-compétitivité des entreprises les unes contre les autres, c'est celui qui dégaine le plus vite, qui emporte le marché. Donc on voit qu'au niveau économique, il y a un courant énorme qui vise à plaquer le temps sur l'immédiateté, la simultanéité, et que dans ce cadre-là, les technologies de communication jouent un très grand rôle.
Alors, justement, dans ce cadre, sur quel mode le temps et l'espace sont-ils vécus par nous autres hommes vivant dans ces sociétés hyper modernes, comme on peut le dire? Comment nous-mêmes vivons-nous cette accélération?
Alors voilà, il faut bien se rendre compte du fait que le pli a certainement été pris d'abord au niveau économique, dans les entreprises, dans les organisations, dans les institutions. Bien. Mais ensuite, il y a une déteinte de ce mode de fonctionnement qui est commandé par la rentabilité, l'efficacité, le pouvoir, la puissance, etc. Et qui se retrouve dans la vie quotidienne de tout un chacun sous deux formes. La première, c'est le fait que le travail déborde largement sur notre vie quotidienne, à savoir que les murs ne protègent plus et avec les portables, finalement, notre hiérarchie, nos organisations professionnelles nous joignent. Alors, il y a des tas de statistiques qui montrent que on travaille chez soi l'espace du week-end, etc., surtout les cadres du reste. Et puis, un phénomène peut-être moins visible, mais qui, à mes yeux, est tout aussi important, qui est le fait de... la déteinte des modes de fonctionnement de l'entreprise sur le quotidien. À savoir que nous en venons à gérer notre vie quotidienne comme les responsables des entreprises gèrent leur entreprise. Et pourquoi ? Parce qu'il s'agit pas d'une affaire ratée, mais d'une occasion ratée. Une occasion ratée, on est dans des sociétés dans lesquelles finalement on est les gestionnaires de notre propre vie. Et ce qui signifie qu'on cherche à avoir une vie la plus dense, la plus intense possible. On dispose d'un capital, un capital vie, et il faut le faire fructifier au mieux. Voilà. Et donc, on est constamment à l'écoute et en attention de ce qui peut se présenter à nous et qui irait dans la direction d'une densification, une intensification de notre vie.
Alors, cette intensification-là ne va pas sans aussi certains maux que les gens peuvent subir, éprouver. Justement, quelles sont ces difficultés que les gens éprouvent confrontés à l'immédiateté, à la culture de l'urgence?
Voilà. Alors, déjà, on parlait du mode économique tout à l'heure. Il est vrai que dans les entreprises, on voit que trop de pression, trop de surcharge informationnelle contraint les individus à finalement en venir à confondre ce qui est urgent avec ce qui est important. Et ça, c'est très grave au niveau de la gestion des projets d'entreprise. On voit aussi qu'il y a, je vais aller très vite, mais au niveau économique, on voit comment l'économie réelle, c'est-à-dire l'économie industrielle, productrice de biens ou de services, a été gangrénée par le capital financier. C'est-à-dire le capital financier veut un retour sur investissement extrêmement rapidement. Or, le temps du retour financier n'est pas le même qu'un retour industriel. On peut très bien avoir une entreprise, avoir besoin d'un investissement sur 5 ans ou 6 ans, avoir une rentabilité à 5 ou 6%. Mais si vous avez un capital volatile, lui va chercher à avoir du 10 ou du 15%. Et donc, il y a une espèce de dictature de la rentabilité immédiate qui se traduit par, on le voit, une pression au niveau des dirigeants de ces entreprises qui se répercute dans toute la hiérarchie de l'entreprise. Et il y a un stress continuel où on voit qu'il faut faire les choses plus rapidement, plus réactionnelle, où il faut s'adapter constamment, nous dit-on, à un monde de plus en plus changeant. Et là est un des principaux dangers, à savoir que dans un monde où on nous dit qu'il faut s'adapter, avoir des tactiques et jouer, essayer de s'en sortir, eh bien, comment peut-on encore adapter ce monde dans la durée? C'est-à-dire, que devient la notion de projet? Que devient la capacité à changer le monde d'un monde où, nous dit-on, il faut s'adapter?
Alors justement, en quoi cette mobilisation permanente, cette obligation de la réactivité a pour effet d'amenuiser cette capacité à créer, à former des projets? Est-ce que vous pourriez nous expliquer, aussi bien au niveau individuel que collectif, c'est-à-dire politique aussi?
Oui, bien, le projet, si on prend le projet de façon générique et même étymologiquement parlant, le projet, c'est le fait de s'imaginer dans le futur, hein, voilà, et d'imaginer un futur qui soit différent du présent, au nom d'une vision de ce qui doit être contre ce qui est, ou de façon différente, et au nom de principes, hein, au nom d'une utopie, plus d'égalité, de fraternité, ce que vous voulez. Et ce qui nous permet, du reste, de vivre des présents très désagréables, très durs. Le militant qui s'engage peut être confronté à des choses qu'il va accepter. Dans l'immédiat, qui sont négatifs pour lui, mais qui, au nom de son idéal, dans le futur, il porte bien. Voilà, c'est ce genre de choses qui fait défaut dans nos sociétés, puisqu'on est obsédé par la rentabilité immédiate. Et ce qui est valable au niveau de l'université, des univers de travail est valable au niveau individuel. C'est ce que j'observe en tout cas, c'est-à-dire qu'on est obsédé par la volonté de réussir notre propre vie que ce soit la plus dense et intense possible. Et dans cette obsession, finalement, on est constamment en train de zapper entre des possibilités. Et quand on est en train de vivre quelque chose, on se pose la question, on se dit, ah, mais ça pourrait être mieux si j'étais ailleurs ou avec telle autre personne. Et finalement, on en arrive à ne plus vivre nos propres vies au nom d'un impératif du mieux. C'est-à-dire que le potentiellement mieux, le potentiellement plus intense, nous empêche de vivre peut-être un certainement moyen.
Face à ce cours des choses, à cette hyper mobilisation, on va dire, en quoi s'abstenir, ne pas répondre forcément à la sollicitation immédiate, le silence aussi, font-ils partie des conditions d'une certaine forme d'autonomie et d'émergence aussi du sens ou des sens?
Oula, vous avez prononcé des gros mots, c'est-à-dire silence, différé, mise à distance. Voilà, ce sont devenus des mots quasiment tabous dans nos sociétés, parce que les gens, la principale logique est celle de, je le répète, hein, d'être branché sur le bon réseau, de façon à avoir la bonne information, et on a des difficultés à se couper. Mais justement, on sait que face à cette logique de la connexion perpétuelle, en tout cas c'est ce que j'observe moi sur mes terrains, il y a une seconde logique, une logique critique qui, elle, vise à ne pas se laisser déposséder précisément de ses propres rythmes, de sa propre temporalité, et qui vise à réintroduire de la distanciation, du différé, du temps propre, du temps à soi, du temps de la réflexion, de la création, pourquoi pas de la méditation, et qui implique, par définition, de la distanciation, du silence. Pourquoi pas de l'ennui, hein. On peut s'ennuyer aussi, il faut accepter de pouvoir s'ennuyer. Et cette distanciation est très importante, car c'est elle qui nous permet de retrouver le temps du passé, c'est-à-dire avoir le temps de penser à ce que l'on a vécu, de revivre le passé, d'en tirer des conséquences pour se créer en tant qu'individu, en tant que sujet capable de porter une trajectoire individuelle, une narration de soi à partir de laquelle, justement, on va pouvoir se projeter dans le futur sous forme de projet. Alors, c'est vraiment indispensable, parce que c'est la condition même de l'existence d'un sujet, un sujet social, et un sujet, pourquoi pas, historique ou politique. Voilà, c'est cette capacité à prendre de la distance, corollaire de la construction de soi comme sujet.
Francis Jory-Guibéry, merci.